Alors, bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue au Mardi Magique. Alors, le concept des Mardis Agités, c'est qu'à chaque semaine, on a des sujets sociaux, politiques, d'actualité ou pas d'actualité, de local ou pas local. À chaque semaine, c'est comme ça à l'Agité. La semaine prochaine, on va avoir, par exemple, une discussion sur le syndicalisme depuis 10 ans. Est-ce que ça a été un frein? On va avoir un débat avec Richard Saint-Pierre. Donc, comme ça, chaque semaine, on a des conférences, des discussions comme ça. L'important, c'est de pouvoir se rassembler ensemble, discuter, échanger de sujets qui nous concernent. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est prostitution réglementée ou abolir. Et pour parler du sujet, on va avoir Geneviève Pointy du projet Intervention prostitution de Québec qui va venir nous parler de ça. À l'avant, vous pouvez trouver des documents. Le projet Lune, qui est un projet du PIPQ. Donc, c'est des revues comme ça que vous pouvez prendre, sont gratuites. Et il y a aussi deux documents de référence si vous voulez vous demander, si vous voulez en apprendre plus un peu sur l'univers de la prostitution. Autrement dit, j'ajoutais, il y a toujours l'IA solidaire. Donc, la soirée est au profit de la page noire, la galerie sociale de gérer de chaque côté. Alors, les bières, les pains de la barberie, il y a une pièce qui va à la page noire. Voilà. Donc, Geneviève Pointy va venir présenter, dans le fond, qu'est-ce que c'est le PIPQ. On va parler de la prostitution, les différentes approches qu'on peut avoir par rapport à ça. Et après ça, après la conférence, on va avoir une discussion qui va commencer. Puis la question principale qui va lancer la discussion, ça va être la question du consentement. Qu'est-ce que c'est le consentement? Parce que dans le fond, c'est ça qui différencie peut-être une prostitution juste ou une prostitution inéquitable. En tout cas, ça va être une question à se poser. Alors voilà, j'en dis pas plus. Alors Geneviève, à vous!
Via le Centre Jeunesse de Québec, mais aussi je donne une formation qui est donnée par notre organisation. Ce soir, je ne suis pas seule. J'ai une collègue, Joanne, qui est à ma droite, qui est sur le projet 80. Je pourrais vous expliquer un peu ce que c'est le projet après. Et je suis accompagnée des femmes, de certaines femmes qui sont membres du projet Lune. Je les laisserai, peut-être après la petite présentation, là, je les laisserai présenter le projet. Et elles participeront aussi à l'échange. Ça pourrait être, c'est pour répondre à mon question. Moi, j'ai une certaine expérience, oui, mais en même temps, quand on a des espaces comme ça, d'échange et de discussion, je préfère que les femmes, de qui on parle, soient là, parce que souvent, c'est les mieux placés, c'est elles qui décident toute l'expertise de leur vie, en fait. Donc, il est important pour moi qu'elles soient. Près de moi ce soir. Avant de parler avant de refaire le monde avec nous autres, je vais vous expliquer grosso modo qui on est. On est dans la milice, on a 26 ans. On a trois services. Un service de travail de rue. Donc, l'idée du travail de rue, pourquoi le travail de rue puis pas une autre pratique sociale? Ben, le travail de rue a la particularité de descendre sur le terrain et d'aller vers les gens, c'est volontaire. Donc, on est dans les quartiers centraux de Québec. Le PPQ est venu au monde d'abord pour les jeunes adultes qui avaient des pratiques de prostitution de rue. Plus tard, au début des années 2000, on a reçu des subventions pour pouvoir aller vers les agences d'escorte, salon de massage, bar à danseuse, donc tout ce qui est plus organisé dans le milieu, dans l'industrie du sexe. Joanne, ça étant, c'était pas prévu qu'elle parle, là, je ne veux pas la mettre là, mais ça étant, vous avez des questions particulièrement.
Vous pouvez voir
à l'univers des escorts, c'est quand même, c'est deux mondes, hein, donc Joanne a retenu cette expertise-là. Et on a aussi une partenaire, Daniel Québec, qui est ici aussi. On est ici serré à Québec, dans le milieu communautaire, pour faire de faire avec les. Miel, Pêche, on est toutes des organisations qui travaillent en collaboration avec nos partenaires, en passant, je voulais vous dire. Donc, travail de rue, donc pour rejoindre les gens directement dans leur milieu. On a un service aussi, comme je vous disais tantôt, d'animation-prévention. On croit beaucoup à la prévention. Donc, on rencontre les adolescents, adolescentes. Tu sais, on parle plus de cul dans les écoles. De moins en moins, les cours disparaissent, ou ce qu'il y avait la possibilité. Encore là, ce qu'on les enseignait, nous autres, c'était plus la mécanique, hein, mettre un condom, c'est tout ça. Mais parler des rapports humains, des rapports amoureux, ou du respect, ou des unions égalitaires, ou peu importe, c'est pas des sujets qui sont généralement abordés avec les ados. Alors, nous autres, par la porte de l'exploitation sexuelle, on essaye justement de souvent la position pour les jeunes, ils ne savent pas tout ce que c'est, puis ça les touche plus ou moins, puis au contraire, c'est un phénomène qui est bien loin d'eux autres, souvent, qui pensent. Mais passer par la porte de. Parce qu'on a tous envie d'être en amour dans notre vie à un moment donné, puis on a tous envie d'être coupé avec quelqu'un. Donc passer par cette porte-là, c'est souvent plus agréable aussi. Hein? Donc parler de sexualité qui est plus positive. Donc on rencontre autour de 5000 jeunes par année. Que ce soit en milieu scolaire ou sans centre jeunesse, après-midi, justement, à l'ESCAN, dans le centre de réadaptation, rencontrer les adolescentes, parler d'exploitation sexuelle ici. Maison de jeunes, tous les autres milieux de vie. L'animation, ça se produit dans les écoles, ça peut se faire dans la rue, ça peut se faire dans d'autres organismes communautaires, un peu partout. Ensuite, le troisième service, c'est le milieu de vie. Milieu de vie qui a informellement toujours existé au PPQ, dans le sens qu'on a toujours accueilli des gens dans nos bureaux. À l'époque, c'était les agents de financement qui assumaient la permanence à l'interne et qui faisaient les interventions. Aujourd'hui, je dirais qu'on a formalisé ce service-là en engageant des gens qui sont dans nos bureaux. En fait, on a une cuisine, on a une espèce de grand hall d'entrée avec un divan. Ça, les gens peuvent venir flâner chez nous, c'est permis. On est un espace public comme un autre, mais c'est pas interdit de flâner chez nous. Donc, les gens peuvent venir casser la croûte, prendre un café. On a des services aussi du type distribution alimentaire, pas de collectif. C'est un milieu aussi qui accueille des gens comme des filles qui sont. De rattacher un projet associatif, un projet collectif. On croit beaucoup au projet collectif. La pédagogie d'empowerment, si vous voulez, qui est empruntée à toutes sortes de choses, empowerment, mais ces filles-là ont du potentiel, ces filles-là ont du connaissance. Donc, avoir des projets pour mettre à profit leurs connaissances et leurs habiletés, c'est vraiment des choses qu'on peut leur offrir. Distribution de seringues, condoms, on a une approche de réduction de méfaits, il y a une infirmière qui vient nous visiter au bureau de Christine aussi. L'approche de réduction de méfaits fait partie de nos approches. Moi, je ne crois pas qu'il y a une seule approche qui est la vérité, mais l'ensemble d'approches pour justement permettre, je dirais, d'être multi-praticien. On est des généralistes, en fait. On travaille avec l'humain d'abord. C'est sûr qu'on a une mission de prostitution, on travaille d'abord avec des gens, pas avec des pubs, pas avec des prostituées, pas avec des mariages du sexe, mais avec des maris, avec des Isabelles, toutes sortes de femmes, des garçons aussi. Les gars sont des pratiques de prostitution. Souvent, on a tendance à les occulter, on en parle pas en fait, mais ces gars-là sont présents aussi dans ces milieux-là. Il y a aussi des questions par rapport à notre organisation. Il y a 5 travailleurs de rue, donc 3 dans la rue, 2 lances d'escorte de le projet Catwoman. Pourquoi Catwoman? Hein? Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais ce projet Catwoman-là, pourquoi il y a un nom? Parce que, ça je peux vous le dire, par exemple, c'est un projet qui existe à l'échelle provinciale. Donc il y a des Catwoman à Trois-Rivières, il y a des Catwoman à Drummondville. Il y en a dans le nord de Montréal, dans Montréal aussi, parce que les filles qui dansent au fond du salon de massage, souvent, ils vont faire la tournée de la province, ils vont aller travailler dans les bars, en région, tout ça. Donc, c'est repérable d'entendre parler de Catwoman. Tu sais à quoi t'attendre, tu sais que c'est un projet qui est axé d'abord sur la santé sexuelle des femmes qui ont des pratiques dans l'industrie du sexe. Donc, on est 13 employés. On est une boîte voilà. Témoignage. Et là, on rentre, on fait le monde à soir. Moi, ça fait 17 ans que je me questionne sur, à savoir si quel est le meilleur cadre juridique approprié maintenant à la pratique. Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est en partie de l'exploitation? Est-ce que c'est ce que ça? Et... c'est toujours un sujet qui soulève bien d'émotions, bien de la passion, qui touche notre morale, qui touche nos valeurs sexuelles, qui touche nos bébites sexuelles aussi. C'est donc content, souvent c'est hors temps. Parce que si la prostitution s'exerçait uniquement dans un même contexte, ça serait plus facile de se faire en même temps. Mais il y a une multitude de contextes dans lesquels elle peut s'exercer. Puis en même temps, il y a une multitude de femmes et de gars qui la pratiquent avec des backgrounds différents, avec des personnalités différentes, avec des avenirs différents aussi. Donc, c'est ce qui complexifie l'affaire. Et ça touche à la morale, et quand on touche à la morale aussi, c'est complexifiant. Vous allez arriver à inventer des mots. On parlait du consentement tantôt, mais ça, je vais voir. Ça aussi, c'est une notion qu'on peut regarder de plusieurs façons, avec plusieurs lunettes. On peut la regarder de façon très rationnelle, en disant que c'est un contrat, hein, un échange de sacrifices, c'est marchand. On peut la regarder d'une autre façon aussi. C'est plus philosophique, on peut dériver là-dessus. Il y a plein d'écrits, ça, si vous voulez connaître des sites internet, ou plein de choses, vous pouvez aller voir après, je serai en mesure de vous en donner. Mais c'est sûr que ce qui alimente ma réflexion, c'est beaucoup mes lectures. Puis des fois, il faut que je prenne un temps d'arrêt, il faut que j'arrête de lire, parce que ça soit pour moi, là, ça me mélange trop. J'ai besoin de gérer ces lectures-là pour essayer de me faire une tête. Mais je vous dirais, ce qui m'inspire encore plus, c'est bien les filles que je rencontre qui vont témoigner de leur pratique, de leur réalité. Pour moi, ça, c'est ce qui a plus crédible. Donc, voilà. Bonjour. Je ne sais pas comment, par quel bout prendre ça. D'habitude, j'ai un tableau. J'aurais pu vous faire un petit dessin. En fait, qu'est-ce que vous savez sur la personne? On va vous faire parler un peu. Moi, je suis encore plus performante dans l'échange plutôt que dans le monologue. Puis la seule prétention du jeu, c'est de ne pas tout connaître. Fait que ça se peut que je ne sois pas en mesure de répondre à vos questions en même temps. Je vais répondre au meilleur de mes connaissances, je vous dis. Je ne suis pas capable de vous répondre, mais il y aura plein des pères qui pourront me supporter. En fait, levez la main sur les aides, si c'est possible. Levez la main sur les aides qui considère la prostitution comme une violence faite aux femmes et comme une exploitation sexuelle. Levez la main sur les celles qui considèrent davantage la prostitution comme un travail du sexe. Levez la main ceux qui s'affondent. Vous êtes assis là ce soir. Vous êtes en quête de vérité. Mais sachez que ça n'existe pas. OK. Alors, j'aimerais entendre ceux et celles qui considèrent la prostitution comme une violence faite aux femmes ou l'exploitation sexuelle. Vos arguments, oui.
J'en ai connu plusieurs, là, parce que j'ai déjà été dans la rue pendant plusieurs années. Puis celles que j'ai connues, que j'ai connues, je veux dire, c'est surtout des gens qui étaient dans la rue puis qui n'étaient pas capables de se payer à manger ou de se payer un logement. Fait qu'ils faisaient ça pour avoir plus d'argent. Fait que dans un sens, ils n'étaient pas nécessairement consentantes à avoir une relation sexuelle, mais ils étaient consentantes à avoir de l'argent pour vivre. Fait que dans ce sens-là, moi je trouve que c'est une exploitation sexuelle. Mais j'ai lu aussi des livres comme Le Bordel ou des trucs comme ça de femmes québécoises qui avaient été. Qui avaient été des escortes ou des prostituées. Puis j'ai étudié en intervention de l'intense, fait que j'ai fait des recherches aussi sur les gangs de rue puis les filles qui prostituaient et tout. Fait que selon moi, je prends ça comme une exploitation sexuelle, comme une violence faite aux femmes. Mais j'imagine qu'il y a des femmes aussi qui veulent le faire, mais ça, je peux pas en témoigner.
Dans le contexte. C'est important, nos croyances partent de notre background et de notre connaissance. Donc, toi, c'est important, ça influence toute ta perception, ta conclusion sociale que tu fais de la prostitution aussi. Parce que tu as connu des gens qui ont fait la prostitution dans un contexte de survie. En fait, hein, parce que c'est sûr qu'il aurait pu choisir d'autres choses, il aurait pu voler un dépanneur, il aurait pu
ça. Ben, il choisit aussi, mais
tu as mais c'est important de connaître notre construction sociale, notre perception. Souvent, elle va venir de... on est influencé par, oui, nos connaissances, mais aussi tout ce qu'on voit, ce qu'on nous projette, ce que notre environnement nous projette. Les médias, entre autres, c'est les plus grands... En fait, c'est eux qui nous influencent le plus, je crois, dans la vie de tous les jours, dans le day-to-day. Moi, tous les matins, je lis ma gazette et ils vont me faire une idée sur une situation sans nécessairement faire le tour du verre, la voir sur plusieurs angles. Les médias nous renvoient un angle. Et celui qui lit a aussi sa perception. Donc, faire attention à ce que l'image des médias nous renvoient. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent peut-être bonifier ou réagir? Comment c'est?
Faudrait dire totalement le contraire.
Ouais, non, mais là, je parle plus d'exploitation, je veux plus entendre les arguments autour de l'exploitation. On viendra après sur l'autre pendant. Est-ce d'autres gens qui veulent réagir? Il y a un âge en plus, hein, quand
même.
Je
suis venu
te poser une question
en plus.
Est-ce qu'une personne
qui veut
réagir? Oui.
On peut considérer, moi, un peu la façon que je le conçois, que c'est une activité autour duquel il y a beaucoup d'exploitation, beaucoup de violence et beaucoup de problèmes. Mais je ne vois pas l'activité de la prostitution en soi comme étant une forme de violence. C'est pour ça que moi, tantôt, j'ai pas levé ma main.
Oui. C'est important ce que tu amènes. Je veux que vous soyez, que ça ne vous dérange pas. C'est important ce que tu amènes parce que les abolitionnistes, ceux qui veulent éradiquer la prostitution, tout ça, dans leur prémisse, c'est que la relation, peu importe dans quel contexte que l'activité est pratiquée, c'est que la relation de prostitution en soi fait violence. C'est une violence de la prostitution. Donc c'est important cette nuance-là. que tu sois escorte, que tu sois, peu importe, supérieur en genre, mais le fait que tu, que quelqu'un te paye tes services sexuels, ça c'est une relation de domination et une violence qui t'est faite. Donc, la violence, oui, ça existe, mais la relation, dans certains contextes, mais il y a dans d'autres contextes que la relation peut être bien correcte, puis il n'y a pas de notion d'exploitation là-dedans. C'est là qu'on va parler du consentement. Il y a un consentement entre deux adultes, et c'est fait dans des conditions à limite respectueuses. C'est tout ça, Julien. Ça résume
un peu mon point de vue, en général sur la chose. Je n'ai pas encore ma tête, n'est pas toute faite là-dessus, mais je n'ai pas tendance à vouloir considérer que le simple principe d'échanger un service sexuel contre de l'argent est en soi une violence. Donc, je n'aurais pas de tendance à considérer ça comme une violence en soi.
Et tout le résultat d'un monde patriarcal, hein, qui...
Ben, je pense que même les affaires dégueulasses autour de la prostitution, c'est vraiment un gros problème sur lequel il faut travailler. Mais est-ce qu'il faut considérer ça dans notre approche, dans notre stratégie, comme étant une violence en soi? Si on le considère ou si on ne le considère pas, ça ne sera pas la même approche. Mm-hmm. Je ne sais pas laquelle est la plus efficace pour améliorer les conditions de travail, les conditions de vie de ces personnes.
D'autres réactions? Oui, Julien. Par rapport à l'exploitation sexuelle, oui?
Par rapport à ce qu'il vient de dire, ça m'a fait réfléchir. Moi, j'avais tendance à dire. Il y a l'exploitation, parce que le rapport à l'argent, le fait qu'on vende soit notre activité physique, soit notre activité mentale, soit notre activité sexuelle pour de l'argent, à ce que je cherche, c'est toujours l'exploitation. C'est l'exploitation du travail. Donc, oui, il y en a, mais elle n'est pas réservée à ce qu'on pourrait appeler l'activité professionnelle.
Ce que tu amènes, c'est que l'exploitation, on en retrouve.
Dans le travail en soi,
quand tu flippes des burgers ou McDo, ben, au prix qu'on te paye, dans les conditions dans lesquelles tu exerces ton travail.
Ben, souvent, même énormément de violence aussi à ce niveau-là.
C'est ceux qui sont en accord avec. Comment ça s'appelle?
Pascal.
Est-ce que la croissance. Ah, oui.
Ben, moi, je pense que vraiment, qu'est-ce qu'il y a de pire pour les gens là-dedans, c'est vraiment le fait qu'il y ait de la sexualité impliquée là-dedans. Puis, je pense que c'est vraiment le côté moralisateur. Moi, j'ai vraiment un problème avec le travail en général. Puis, le fait qu'il y ait de la moralité qui embarque là-dedans, c'est ça qui fait que c'est comme doublement, tu sais, pire pour certaines personnes, alors que c'est vraiment à la base de ça, je pense, qu'il faut bien faire. C'est, je suis un peu dans la même lignée que je pense qu'il y a.
Ah oui, la morale, bien sûr que je le trouve, hein. Parce qu'on est vraiment un héritage judéo-chrétien. Hein. Tranquillement.
Mais moi, j'ai
une question. Oui, oui, oui.
Ben, dans le fond, je voulais. C'est quoi, dans le fond, le juin d'arriver?
Ben oui, c'est
vrai. Allô? Mais ça, justement, la question, le problème, question de la prostitution, ça n'est pas. Justement, s'inscrire dans quelque chose de plus global, dans cette tradition judéo-chrétienne moralisatrice, je pense qu'il y aura toujours une demande pour la prostitution, une demande en charge, s'il y a encore des problèmes qui vont de problèmes de couple, jusqu'à quel point de fidélité ou fidélité il peut y avoir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Quand tu
fait dans le fond, il y aura toujours une demande pour la prostitution. Selon moi, si ça reste dans un contexte comme la société dans lequel on est maintenant, parce qu'il y a un problème ailleurs que dans la prostitution. Puis parfois, je parle du point de vue des consommateurs. Ça vient peut-être pour eux calmer un autre problème, une autre angoisse qui revient à un autre problème de société.
Donc, c'est le résultat d'une société malade.
Ben oui, c'est ça. Pourquoi on a des besoins de société? Pourquoi il y a ces métiers? Pourquoi des.
Moi, je porte un regard beaucoup plus macro-social.
Oui, c'est ça. C'est que même ceux qui veulent un service qui n'est pas axé sur la violence, qui pourrait être respectueux et sain, ça s'inscrit dans un problème plus global. Puis je pense qu'on ne peut pas l'effacer pour étudier le problème de la prostitution.
Marianne, tu veux réagir?
Oui, bonjour, je m'appelle Andréane. Moi, je suis fillette, je travaille au budget. Je voulais juste ouvrir une parenthèse sur le fait que moi, ce qui m'a fait souffrir là-dedans, c'est pas la prostitution, c'est le pourquoi je me prostituais, qui est la consommation. Puis dès que je m'en vais dans ta façon de parler, dans ta lignée de pensée, c'est d'aller voir un petit peu plus loin. C'est qu'est-ce qui pousse quelqu'un à arriver là.
Se prostituer ou avoir besoin de
prostituer. Oui,
c'est ça. Mm-hmm. C'est un symptôme. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre dans ce que M. Andréane amène, c'est que ça répond à des besoins. Si ça répondait à rien, c'est pas simple qu'il serait intéressé à avoir une activité de position. C'est, oui, ça répond à des besoins économiques. C'est vrai, payer ta dot, maintenant. Mais moi, je pense que ça répond aussi à des besoins, je dirais, plus à, peuvent être plus affectifs aussi, mais l'estime de soi, la confiance en soi, c'est tout ton rapport que là, des clients, c'est pas tout des crottes non plus. On s'entend que tu vas rencontrer des hommes qui vont te gratifier, qui vont te dire que tu es firme, qui vont pas juste t'es belle, mais que tu es intéressante. J'aime ça passer du temps avec toi. C'est tout un réseau social voisin derrière.
Parce que souvent, la prostitution, c'est pas juste un acte sexuel, c'est une relation avec quelqu'un. Tu sais, autant la personne vient chercher quelque chose que nous, on va chercher quelque chose, tu sais, c'est un échange aussi. C'est pas qu'un acte sexuel.
Des fois, oui.
Oui, des fois, oui.
Non, mais toi, j'entends d'autres histoires.
Mais des fois,
c'est un genre sexuel.
Oui. Ça aussi, des fois, c'est une relation avec quelqu'un aussi.
Oui, puis ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui disent que ah, les gars payent pour ne pas s'engager, les gars payent pour ne pas avoir de compte à rendre. Il y a absence de relation, il y a absence de. Un instant, là. Oui, des fois, il y a absence de relation, puis 8 minutes d'un char, c'est comment ça coûte, puis c'est fini, bonsoir, là, ça fait une bonjour, mais il y a aussi toutes des filles et des gars qui vont rencontrer des clients, qui vont développer des fois des amitiés avec ces gars-là, des hommes qui peuvent devenir importants dans la vie de ces filles-là.
Ouais.
Y a j'ai connu des filles, mettons, entre autres, je pense qui dansaient au début du mariage, à un moment donné, elle décidait de cesser la danse, elle avait, je pense qu'elle devait 800 piastres d'hydro, 400 avec Canada, en tout cas, mais lui, il a clairé ses vides. Tu sais, il est resté près d'elle le temps qu'elle sorte la marque, qu'elle se restabilise une vie, qu'elle se retrouve à la marque. Tu sais, il l'a imposé. Il dit, c'est pas rien pour moi, ça. Quand elle parle de ce gars-là, ben, elle le voit encore aujourd'hui, ils sont devenus chums. C'est pas de relation sexuelle. C'est comme si leur relation a passé à autre chose. Et il était hyper significatif dans sa sortie.
Mais moi, je dirais aussi que, bon, ça dépend aussi le parcours de vie que tu as eu. Mais si tu prends comme moi qui étais abusée sexuellement jeune, la confiance envers les hommes, il n'avait pas. Je me suis jamais trouvé vraiment le style de fille wow, patard. Fait que j'allais beaucoup chercher. J'allais chercher beaucoup envers mes clients. J'allais chercher beaucoup d'estime de moi. J'allais beaucoup chercher ça. Parce que, bon, effectivement, je n'avais pas. Puis, bon, il y en a des gens pas corrects dans la vie, mais il y en a aussi des corrects. Et ça, je vous le dis. Et moi, par contre, j'ai rencontré des hommes qui ont été extraordinaires, qui ont été symboliques dans ma vie. Et c'est mon expérience personnelle. Mais tu sais, ça, tu sais, on peut en parler bien gros de ça. T'sais, c'est comme genre, aujourd'hui, je me sens pas mal. J'aurais peut-être tous les avantages à me sentir mal, mais je me sens pas mal d'avoir été ce que j'ai été. Ça m'a permis de comprendre bien des choses, puis de voir que je pouvais aider d'autres personnes avec mon expérience personnelle. Là. Mais c'est par rapport au regard des autres, des fois, que tu te regardes. C'est les autres qui se font sentir cheap. C'est pas toi en tant que tel, là. Mais qui on est, si un jour on devait lever sa main, qui qu'on est, c'est pour jouer. Je sais pas.
Ce que Joanie amène, c'est extrêmement important. Là. Le regard social sur la prostitution, les gens qui la pratiquent, ça va de soi. Et ça, c'est souvent. Il y a beaucoup de conséquences. En fait, on peut regarder l'autre mouvement qui est plus libéral, où ce que les femmes vont revendiquer peut-être la professionnalisation du travail du sexe et tout ça. Et dans leur argumentation, ils soulèvent la stigmatisation et les conséquences de la stigmatisation. C'est ça qui fait violent. C'est la façon d'être regardé. Donc la façon d'être regardé, c'est déshumanisant. Dans le sens que tu n'es plus une femme, tu es une prostituée, tu es une pute, sauf une femme. Donc c'est ce regard-là qui est percutant, en fait, dans la vie de ces femmes-là, et qui... vas-y, Joanie.
Ben moi, je trouve que tant que je travaillais comme travailleuse de sexe, j'avais plus un réseau social, puis qu'aujourd'hui que je le fais plus, ben je suis comme plus restreinte dans mon réseau social. J'ai de la misère à m'intégrer par rapport avec des gens parce que je me sens pas bien.
On est souvent obligé de nier.
T'es obligé de jouer comme une double vie. Tu sais, comme une double vie parce que tu fais comme une double. T'agis, tu te comportes comme quelqu'un qui mène une double vie parce que tu veux pas que les autres sachent que t'es prostituée. Que tu ne l'es plus. Moi, je te dirais là, que si je me compare avant et aujourd'hui, ben, j'ai le même taux de souffrance dans le sens que le jugement des autres est aussi porté sur moi que comme systématisant. Comment on dit ça? Systématisant sur moi. Je trouve ça épouvantable de vivre avec ça, moi. Je trouve que même ça en est triste. Parce que les gens voient le côté beaucoup, beaucoup plus négatif que le positif. Puis dans le fond, ben, je suis la même personne. Là. Je suis une mère de famille comme tout le monde. J'ai des besoins, j'ai des rêves. Ça n'empêche pas que aujourd'hui, je suis contente de ce que je suis, mais par rapport au regard des autres, je vis aussi isolée que quand je pratiquais la prostitution.
Si vous voulez, il y avait une question aussi.
C'est pas mal de poser une question. Je me demandais si ton réseau social, pendant que tu travaillais comme travailleuse sociale,
Ouais,
c'est
du travail social. Est-ce que ton réseau social
était plus malsain,
genre
en ce moment, par rapport aux relations
que
tu avais avec
tes
amis?
Ben, c'est sûr que, regarde, moi, je vois plus ça, je suis une vraie d'arrache, je suis un héroïne. Fait que je me suis fait, je d'un certain sens, oui, il y avait des relations malsaines, mais ça en est créé des saines aussi. Plus que j'ai gardé encore des gens que je ne pratique plus de travail de sexe, j'ai gardé encore mon réseau. J'ai gardé ce réseau. Mais oui, il y a eu une partie de ma vie. Mais c'est comme dans tout. Comme tout le monde, d'ailleurs, on n'a pas tous des vrais, vrais, vrais amis. On a des connaissances. On n'est pas tous des gens sains en entour de nous. Ça ne nous permet pas de dire que cette personne-là, tu sais, c'est pas tout le monde qui est équilibré, là. Puis on est amis pareil, on les accueille dans leurs différences. Et je pense que c'est comme ça qu'on apprend à grandir. Là. C'est dans la diversité. Mais je te dirais que oui, effectivement, mon réseau, je suis contente de l'avoir. Je l'ai gardé le sain, mais le pas sain, c'est quand même. Ben, j'étais plus payante pour eux autres.
Est-ce que
Joanie
avait ses
réseaux
sociaux
pour
ses amis? J'entends souvent des filles qui ont cessé. Puis que. Une des conséquences de l'arrêt, c'est ce sont l'isolement. L'isolement social et le sentiment aussi de. Il y en a une qui me racontait, moi le matin, je me levais comme tout le monde, je m'habillais comme tout le monde, je m'arrangeais comme tout le monde. Après ça, je partais marcher Saint-Joseph, tout ça. Elle faisait 2-3 clients le matin pour aller acheter sa grosse bière. Puis, tu sais, elle avait sa routine, comme un travailleur ou une travailleuse, qui a sa routine dans une journée. Depuis qu'elle a arrêté, ce qui manque le plus, c'est ça. Elle dit, je ne vois plus personne. Elle dit, au moins, quand je faisais la rue, je voyais des clients. C'est pas, je vendais avec du monde. Elle dit, là, suis dans mon salon, puis j'ose pas trop sortir. Si je sors, ben, je me fais coller par la police, ou je me fais vérifier, ou ça va me tenter. Fait que pour justement éviter cette tentation-là, c'est comme le monde qui arrête de fumer et qui ne sort plus jamais d'un bar. Ça peut... Dans mon temps, quand on est arrêté de fumer, j'ai trouvé un pot aussi pour éviter les bars, le restaurant de l'eau. À un moment donné, il faut qu'on compte en réalité. Mais c'est ça.
Vas-y, juste par rapport à la solitude que ces deux femmes rencontrent quand ils arrêtent de travailler. C'est des fois des raisons pour les gens qui vont plus donner une femme qui décide d'arrêter de faire la production. Ben, bon, je prends dans le jeu pas d'autres choses. Ben, souvent, ben, elle va retourner travailler pour le social. C'est ça, Joanie, Andréane, un vécu de travail du sexe au niveau de la rue. Moi, les agents d'escorte, ce que je vois, c'est de toute beauté des fois. C'est des femmes qui sont ensemble dans une cuisine ou dans un salon, qui attendent parce que c'est le lieu de travail. Et puis, il y a une amitié là-dedans, une belle complicité. Une fille va arriver avec un gros plateau qu'elle a cuisiné la fille. Elle va dire, hey, les filles, on a ça pour dîner, je vous ai amené ça. Il y a une belle solidarité. Les filles se soutiennent. Et de fait, quand ils veulent sortir de la position, ils perdent ça, c'est quelque chose de beau. Quand on parle de notre prison sociale, on déménage dans un autre lieu, dans un autre pays, c'est quelque chose de beau. Mais c'est quelque chose qui peut trouver de beau.
Mais moi, ça me fait beaucoup réagir à ça parce que, bon, je te dirais que depuis que j'ai arrêté ce métier, quand j'ai arrêté de travailler, c'est un métier. On ne veut pas que c'est un métier. Bon, quand j'ai arrêté, d'abord, on sait tous que je suis vous savez, c'est pour tout le monde. On sait tous que je suis dure d'approche, je suis versatile. J'ai essayé de m'intégrer à du monde bien strict, là, t'sais. Du monde qui n'avait jamais œuvré dans ce milieu-là. Puis, je me suis jamais sentie vraiment un sentiment d'appartenance. Mais c'est peut-être dans ma tête aussi, là, le fait de peut-être d'avoir été trop, justement, après 25 ans, t'sais, tu connais toutes tes habitudes, tu connais les gens, tu connais tout le monde. J'ai essayé de m'intégrer, puis ça marche pas. Là, pourtant, c'est peut-être moi qui me mets une barrière dès le départ, mais ça marche pas. La raison principale pourquoi ça marche pas, parce que je sens qu'il y a une différence. Je sens qu'il y a une différence par rapport à moi. Par rapport peut-être à mon attitude, par rapport à mon regard. Peut-être que, bon, les gens ont du pot venir me voir pour me demander, ben comment ça va, comment tu te sens. Je me sens comme un peu diminuer de ça, fait que, effectivement, une chance que j'ai le projet d'intervention, puis j'ai Miel Québec, puis j'ai tous ces organismes-là pour aider mes pères, parce que je vais vous dire que, effectivement, ça serait un gros point que j'en retourne sa vie. Mais, par contre, j'aide les gens, les filles qui ont passé ce que je suis passée, puis ça m'aide à aller chercher tout ce que j'ai besoin au point de vue émotion, sentiment. Je passe par toute la même gamme d'émotions que tout le monde, parce que des fois, je pense que je suis obligée de me pincer pour voir si j'ai vraiment mal. Parce que moi, personnellement, je me suis endurcie, j'ai une très grosse carapace. Puis, merci à toutes ces personnes-là qui travaillent bien souvent dans l'ombre, qui nous ramassent la petite cuillère. Puis, merci à mes amis. Puis, des fois, on trouve ça peut-être facile de l'extérieur, mais c'est pas évident de travailler avec des personnes comme nous autres. C'est pas toujours facile. Là. Mais un gros merci. Puis, je voudrais pas qu'on oublie les travailleurs de rue qui sont là tout le temps, dans le temps de Noël, dans le temps de nos déprises, quand ça va mal, quand ça va bien. C'est dur. Je vous dirais que c'est dur. Je vous dirais que c'est dur de se réhabiliter dans une société. Moi, je pense que je commence à vouloir dans un. Premièrement, je vis dans un nouvel environnement. Ça va faire bientôt un an. Je pense que je commence à vouloir ouvrir un petit peu mes fenêtres. J'ai besoin un petit peu d'air, mais ça va tranquillement, ça fait son chemin. Je sais que je ne ferai pas l'unanimité. Puis c'est correct comme ça aussi. Puis moi, c'est le respect qui compte, l'essentiel, c'est ça. C'est le respect, la balance. C'est contre le vent, là, tu sais, genre, je peux. Et ça fait drôle de venir témoigner ce soir aussi parce qu'il y a certaines personnes que je connais pas vraiment, mais que bon, on se côtoie dans... Mais j'ai pas honte de venir partager ce que j'ai vécu parce que je pense que je sors de l'ombre. Alors c'est ça, Joanie, elle est comme ça. Elle est bizarre. Mais...
Je voudrais d'une part merci pour le témoignage. C'est toujours, je pense que vous n'allez pas avoir honte. Ça a marché, en tout cas, pour moi, est très, je l'accueille de façon très ouverte, en fait. C'est toujours une grande marque de liberté de parole, je pense, en fait. Moi, je l'accueille vraiment de façon très, très, très positive. C'est super, en fait, de partager des témoignages comme cela. En fait, pour moi, il y a plusieurs vraiment choses que je voudrais dire sur ce sujet qui me préoccupe depuis quand même plusieurs années. Étant moi-même féministe, en fait, ayant connu autant des féministes très abolitionnistes et des féministes très pro-travail du sexe, décriminalisation, de tout moment, c'est une question qui est pragmatique, en fait, pour la décriminalisation, mais là, c'est un débat qui est très, très campé, en fait. Et qui vient chercher émotivement, je pense, beaucoup, parce qu'on fait référence à notre sexualité et tant en fait, pour les filles qui travaillent que pour nous-mêmes aussi, les autres personnes peut-être qui n'ont jamais pratiqué ce métier-là. Mais c'est sûr que quand on fait référence à la sexualité, c'est quelque chose de très profond en nous. Oui, c'est ça, il y avait beaucoup de choses à dire, mais je suis assez d'accord sur la question, je trouve ça intéressant de ramener l'exploitation en fait sur la question du travail. C'est sûr que quand on a une position, je m'arrive que c'est partagé par beaucoup de gens ici au Québec, on est quand même dans l'anarchie, de dire que comme le travail, c'est un métier, c'est un lieu d'exploitation. C'est sûr qu'après ça, on peut déplacer un petit peu notre regard, je pense, sur la question du travail du sexe pour dire comme est-ce que c'est plus ou moins. C'est difficile à dire parce que dans le fond, s'il y a exploitation, il y a exploitation dans le travail. Donc, toutes les personnes qui sont salariées, qui travaillent, ont une activité qui est finalement l'exploitation. Mais j'ai quand même beaucoup entendu ce soir les questions qui sont peut-être plus reliées aux filles ou aux gars qui vont défendre les positions abolitionnistes. Tu sais, avec des questions justement de quand on parle de confiance en soi et tout. Dans le fond, je pense qu'il y a quand même aussi, pour avoir une analyse des choses, de dire, oui, mais justement, la violence qui est faite aux femmes à travers le cycle de la prostitution peut être aussi vue comme étant une façon pour le patriarcat ou en tout cas une façon de voir les rapports sociaux de sexe à travers de dire, oui, mais les femmes en tant que telles sont habituellement, on naissent en tout cas dans une société qui laisse très peu de place dans le fond à l'environnement, puis va souvent, ça va être très difficile en tant que femme de faire sa place et d'avoir une très grande confiance en soi, tu sais. Fait que comme ça, cette question-là, personnellement, qui me préoccupe, puis il y a toute la question de façon plus générale sur l'industrie en tant que telle, puis l'ensemble de la division du travail dans la question du travail du sexe, qui à mon sens, c'est comme, tu sais, pour moi, c'est comme, j'aimerais avoir un regard vraiment au niveau autant micro que macro sur cette question-là. Je ne sais pas si vous avez plus d'informations que moi sur cette question-là.
OK.
Je
vais vous
répéter votre talent. Non, je vais constate à force de parler avec des gens qu'à force de ne pas s'entendre. Il y a une raison à ça. Parce que justement, chacun a sa, chacun va tracer sa ligne à des endroits différents sur un continuum, mettons, d'activités sexuelles, XY, parce que on peut parler de procession dans un couple, dans une relation de couple. Puis on peut parler de prostitution juvénile. Tu sais, on parle de deux choses complètement différentes.
Avec des conséquences différentes.
Parce que où on s'entend toutes, c'est au niveau de la prostitution juvénile. Ça, je pense que ça fait quand même assez d'unanimité. Et moi, ce qui m'a. Tu vois, des fois, je ne réponds pas tout de suite à ta question, mais je vais y arriver à un moment donné. J'ai écrit avec plein de monde, là, parce que je ne m'approprie pas ça tout seul, parce que c'est tout petit là, mais guide de prévention, d'intervention en position juvénile. Juste la définition qu'on m'a donnée de position juvénile m'a fait un, pas sursauter, mais m'a fait réfléchir parce que. Dans la définition qu'on a donnée, on a mis la notion d'exploitation sexuelle. Puis cette notion-là d'exploitation, on ne la retrouve pas dans la définition de la façon adulte. Et la question que je me pose en ce temps-là, c'est qu'est-ce qui se passe dans lui du 17 ans à 18 ans? Pourquoi à 17 ans, ces adolescents-là vont être protégés par la police, vont être protégés par soit. Ben, supposément sans jeunesse. En réponse à ça. Ils vont être protégés. Et à 18 ans, on est arrêté. On est criminalisé. Puis même le regard social qu'on pose, il vient de changer dans le 17 à 18. Et moi, ça a longtemps, je n'ai pas trouvé de réponse encore dans ce qui se passait dans ce milieu-là. Pourquoi tout d'un coup il y a un fossé qui se crée puis il y a deux courants après ça qui. Je vois des mains qui se lèvent. Hein, et cette ligne-là qui est tirée, c'est ça, c'est la notion de consentement. Et la notion de consentement. Est-ce que consentir, c'est désirer? On peut délirer, là. Pas parce qu'on consent, qu'on désire. Est-ce qu'on peut consentir lorsqu'on parle de sexualité, quand c'est quelque chose de si fragile, de si intrinsèque en soi, de si intime? Est-ce qu'on peut... C'est toutes des questions que je soulève, là. Vous irez lire Michela Marzano, qui est philosophe, qui a écrit sur le consentement, en fait, qui amène des questionnements super intéressants. Et là, les deux mouvements vont se confronter justement sur cette ligne-là, sur cette notion de consentement-là, et sur la notion de pouvoir aussi, parce que les pro-travail vont dire, écoutez, donnez-moi le pouvoir et la liberté, en fait, d'utiliser mon corps comme j'en ai en fait. C'est une forme de se réapproprier un pouvoir sexuel. Puis l'autre côté, ben, on dit non, tu le perds ton pouvoir dans cette relation de domination-là. C'est pas vrai. C'est pas vrai que tu le prends. Et moi, c'est là que je peux pas dire à une fille que le sentiment de prendre du pouvoir dans une relation même, c'est pas vrai. C'est pas réel. Non, mais là, je vais le chiquer, moi, pour vous dire ça. C'est pas réel. Parce que c'est ce qu'on entend avec les pro-abolitionnistes. C'est que si tu vis ta pratique de façon positive, c'est parce que tu es dissocié tout le temps, tu es décorporalisé, tu n'es plus en contact avec ton corps. Imaginez, moi, c'est ça que je trouve. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'exploitation. Je suis en accord en partie avec le discours des abolitionnistes. Ils ne disent pas juste des niaiseries. Puis en même temps, ils ne disent pas de niaiseries. Moi, ce que je remets en cause, c'est cette vision unilatérale d'un phénomène. Pour moi, c'est plus un phénomène. C'est vraiment complexe, c'est plus une problématique, c'est un phénomène. Donc, moi, c'est ce qui me heurte le plus des pro-abolitionnistes, c'est ça. Ils la regardent comme ça, puis c'est de disqualifier un discours que détiennent ces femmes-là, puis que de leur propre vérité, en fait. Alors là, moi, je comme travailleuse au PIPQ, je me dis, si j'adopte une vision unilatérale, je viens d'exclure une partie de la population des filles que je rejoins. Je suis là pour qui? Je suis là pour elles. Donc, je me dois, il faut que je me fasse un devoir, même une responsabilité, de réfléchir là-dessus, de m'ouvrir mon esprit. Je pense que ça demande d'ouverture. Puis il reste que personnellement, j'ai des positions aussi. Moi, je ne veux pas que ce soit un métier, je ne veux pas que mes filles fassent ça. Mais encore là, c'est teinté de mes jugements, les jugements de valeur. Parce que j'ai été témoin de filles qui ont vécu ça de façon épouvantable aussi. Donc, moi, je ne souhaite pas que ma fille me dise, maman, ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est de faire la nuit, puis c'est cool. Je pourrais le concevoir, ça. Mais ça, je n'ai pas amené ça au boulot. Ben, puis là, de temps en temps, on c'est correct, là, je suis humaine. Mais là, je suis un monologue, j'aime plus ça, mais je ne vais pas répondre à ta question. Mais peut-être sur la ligne, hein, on découpe ça tellement de. Je pense que j'arrive pas à le découper, moi, de façon claire, que en agence, c'est correct, c'est dans tel contexte, c'est comme ça, dans tel contexte, c'est comme ça. J'essaie de trouver plutôt qu'est-ce que toutes ces femmes-là ont en commun, c'est de regarder plus ce qui est pareil plutôt que ce qui est différent, en fait. Et là, quand on embarque après ça sur le cadre juridique, c'est quel cadre juridique ou quel cadre de gestion, parce que sans être un cadre juridique, ça peut être juste un cadre de gestion, qui va répondre à l'ensemble des besoins des travailleurs du site. Et c'est là l'enjeu, et je crois que c'est là le défi qu'on a à réfléchir ensemble, parce que les contextes, il y a tellement une pluralité de contextes que c'est, en tout cas, moi, je pense, je ne vais pas être défaitiste, je ne crois pas qu'un cadre va y arriver à répondre à tout, mais du moins à répondre à une majorité. Là, je vais répondre aux questions. Ça va m'aider à aller plus loin dans la réflexion. OK, on commence par là, puis je balaye vers la droite.
Mais c'est juste pour vous donner avec ce que mademoiselle a dit. Désolée, j'ai peut-être manqué le début, puis c'est un peu répété, mais là, moi, dans ma conception en moi, habituellement, je me préoccupe pas trop du sujet, justement, les abolitionnistes dans ma tête, c'est du monde ultra-moraliste de droite. C'est ça dans ma tête. Mais là, ce que la modèle vient de dire, c'est que des féministes qui ont la vision que la femme, intrinsèquement, de par la position, se fait violence à elle-même puis elle n'a pas le contrôle de toute façon dans le parti qui est dévoilé. Mais c'est qui ce monde-là? Dans mon cerveau aujourd'hui, seule la morale chrétienne de droite peut avoir un discours de même mesure. Comme il faut l'abolir pour un point de vue moral. Mais à part de ça, sur quoi il se base? Je suis désolée.
Ben, en fait, c'est oui, sur un point de vue moral, mais c'est pour atteindre ici l'égalité des sexes.
Mais il y a des gars aussi qui le font, là. Ils comprennent
pas. Mais moins, puis c'est pas pareil.
Mais dans c'est pareil. Pays,
c'est une autre culture. Dans les femmes aussi, je trouve que c'est à ressembler. Mais il n'y a presque pas de femmes qui achètent du sexe. Pourquoi c'est juste les hommes qui achètent du sexe?
Encore, c'est en situation sociale, les femmes le
font. Non, mais statistiquement, ce que je peux vous dire,
c'est de la pour moi, le 50. C'est de la pornographie de 50 ans, puis maintenant c'est à peu près le tiers des consommateurs consommatifs.
Ah ben le marché pour les femmes et l'industrie a intérêt à développer un marché pour les femmes et leurs affaires aussi. Mais non, mais ce que je veux vous dire, c'est que les femmes qui consomment, c'est entre autres avec leur chum, ils vont quand même l'escorte pour faire un trip à trois, mais il y a beaucoup de femmes qui vont dans le sud, ils sont plus seules.
Ah, c'est vrai, c'est ailleurs.
Ils sont plus seules dans le sud. Okay. Non, mais en même temps, c'est banalisé, ça. Ça, c'est... Tu sais, quand je disais le regard social est dur, Et il est aussi différent quand on regarde les femmes clientes et les hommes clients. On dirait que les femmes qui achètent du sexe, c'est moins pire, c'est pas grave, c'est à la limite, c'est drôle. Une femme qui paye un jeune cubain une semaine, un gars qui va payer une Thaïlandaise une semaine, on n'a pas la même. Je suis sûr que ce qui vous est monté à l'intérieur de vous, c'est la même. Le regard est différent. Au même titre que, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés aux danseuses ici, et aux danseurs, c'est deux mondes. Faites l'exercice, savoir faire une recherche sociologique à faire. Non, mais effectivement, là, il y a le droit de s'étendre cette valeur, là, mais. Moi, j'ai fait les deux. Il y avait le bord de la couronne dans le temps. La couronne, la et les danseurs sont vus comme des gars qui font un show, un spectacle, c'est des businessmen. Les filles sont hystériques. C'est gênant. Moi, j'ai été gênée quand on a fait ça. Se rendre à un bord de danseuse, l'ambiance est complètement différente. Les gars prennent leur grosse bière, ça passe, ça fait une game de balle-molle. Il y a un portrait qui danse en arrière. Pas pareil, là, en fait. La façon, moi, je trouve que, quoi, faites-le, je vous le dis, là. Faites-le, ça vaut la peine de se confronter à ces deux univers-là. Moi, je pense que ça démontre bien. On est beaucoup dans la madone et la putain, encore, aussi, là. T'sais, les femmes qui vont avoir des relations sexuelles avec une couple de gars dans le même mois, c'est des salopes. Tandis que les gars, c'est des héros, des dons juments, s'ils ont plusieurs relations. On est encore là-dedans en 2011. Moi, ça m'écarte. Quand je vais rencontrer les adolescents, adolescentes dans les écoles, ils sont encore dans ça. Fait que les filles posent pour des salopes. Les gars, des players. Là. Ça a changé, là, le vocabulaire. Ils disent c'est des players. Merci. Bon, ok. Je m'en vais par là. Il y avait des mains tantôt. Je suis rendu là.
Est-ce que ça se trouvait qu'il y a une partie de la violence, de l'exploitation sexuelle qui se beaucoup dans l'environnement dans lequel la prostitution est pratiquée, tout ça, par rapport à l'environnement du milieu, dépendamment du milieu?
Non, mais je suis pas dans le cours. La question, si je ne réponds pas en c'est est-ce que l'environnement peut contribuer, si vous voulez, à la violence, en fait, au-delà de la relation de prostitution, qu'est-ce qui est violent autour, dans le fond? Puis effectivement, c'est je pense, dans le quartier où tu exerces, mettons, plus en prostitution de loup, parce que la prostitution de loup, sachez, c'est ce qui est. C'est ça qui s'élève, c'est vraiment. C'est elle qu'on voit dans le journal. C'est ces femmes-là qui sont arrêtées par la police. C'est ces femmes-là qui sont inondées de billets de contravention. Et quand c'est pas pour sollicitation, c'est pour flanage. C'est pour ne pas avoir utilisé de trottoir. C'est être trouvé libre sur la voie publique, avoir craché par terre, avoir traversé en diagonale, ne pas s'intéresser sur la voie publique. Et j'en parle aussi. Okay? Donc ces filles-là sont étiquetées dans le quartier. Et moi, je crois qu'il y a une violence qui vient du quartier. Hein? Ne serait-ce que dans la façon d'être regardé, ou d'être perçu. Ou j'ai eu des mouvements dans Saint-Roch élevés, là, où les résidents descendaient avec des balais sur les trottoirs, puis des sacs à la tête. Il y a toutes sortes de mouvements dans Saint-Roch, c'est des mouvements citoyens. Moi, le dernier mouvement que j'ai eu était positif, là, que j'avais formé des citoyens. Je voulais faire une vigile. Je trouvais que l'idée était bonne. Pour sécuriser les filles aussi, puis pour sensibiliser les autres résidents. Parce que, tu sais, c'est sûr, quand une fille est sur le trottoir avec plein de tics, la petite madame de 75 ans, qui ne connaît pas trop la dope, pour elle, là, elle croise dans le monde. Non, mais appelle-nous pas ça. Fait que cette vigile-là avait cette responsabilité-là de démystifier. Et c'était, on se donnait ça comme mission. Eux autres, ils voulaient comme développer, favoriser la cohabitation. Je trouvais que c'était... Moi aussi, j'aimerais ça, la cohabitation. Comment qu'on peut tous vivre ensemble? Mais pour être capable de tous vivre ensemble, il faut comprendre les phénomènes. Il faut comprendre la différence. Il faut comprendre... Ça, j'étais allée au HLM, la chancelière aussi, à un moment donné, rencontrer tous les résidents. Les filles, elles se craquaient dans les marches. J'utilisais les salons communs. Il y a des salons communs, ces étages. Les filles crêchaient, là. Fait que, ben, ça, je trouvais que c'était des interventions positives, proactives aussi, où que les résidents avaient aussi l'occasion de chialer. Donc, je pense que les gens ont le droit de chialer. Puis les gens ont le droit d'avoir peur. T'sais, les gens ont le droit d'être mal informés, dans le sens que, tu sais, si la seule chose qu'on connaisse à l'autre, c'est ce qu'on a vu à la TV, mettons, dans 30 vies. C'est ça qu'on se fait, hein? Toxicomane, ben, c'est un tout croche, puis ça peut être violent. Fait que cette campagne de sensibilisation qu'on avait faite, en tout cas, plus grand, ben, ça tombe à l'eau à un moment donné. Là. Mais je trouvais que ça avait été une action qui était, en fait, une des actions les plus positives auxquelles j'avais été témoin dans Saint-Roch par rapport au phénomène de prostitution de rue dans Saint-Roch. Et pour finir d'abord à ta question, effectivement, les à côté, la répression policière, l'ostracisation, c'est ça, la façon d'être regardé, la façon d'être traité, d'être considéré, moi je pense que ça, c'est des conséquences, des impacts importants dans la vie de ces femmes-là qui créent en fait l'isolement, qui créent une désaffiliation avec ton milieu. Et pour moi, c'est bien.
J'ai un bel exemple en même temps, il y a des femmes qui, à un moment donné, se disent, ben écoute, oui, je suis danseuse, puis je me prostitue quelques soirs par semaine, tout ça, mais je suis citoyenne aussi. Fait que je suis une travailleuse autonome, alors je me déclare à l'impôt. Puis ils font ça, mais en même temps, le même gouvernement vont porter des actions. Tu sollicites les gens, tu n'as pas le droit, tout ça, mais la fille, là, elle a payé son impôt pendant une année, c'est fait, tout ça, puis après ça, le même gouvernement va aller lui donner une amende. En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça super violent, je trouve ça vraiment pas correct que c'est ça, que notre société abuse de cette façon-là.
Il y a l'aide sociale qui court après aussi, quand les filles se font voler, j'en ai une, là, une fille que je connais, elle vivait à peu près 59 000 piastres. Parce qu'ils ont calculé. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle a fait une demande à l'aide sociale qu'on lui paye une thérapie. Que là, ils ont dit, hey, vous consommez, vous, madame? Comment vous payez votre consommation? Ben, en faisant la prostitution. Vous consommez quelle quantité par semaine? Ouais, mettons, elle consomme 8 grammes par semaine. 8 grammes par semaine depuis 15 ans. Bonjour. Et tant qu'à moi, ça, c'est tous des éléments qui contribuent à t'exclure encore, à t'appauvrir.
C'est
quoi,
c'est
un
qui est arrivé chez elle, joyeux?
Non, c'est parce qu'elle est allée voir son agent. Comme moi. Puis elle voulait se faire payer une thérapie. Comme moi. Puis c'est même que ça a commencé. Vous consommez de la dope. La payer comme.
Parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas se geler juste. On ne gèle pas avec son chèque d'aide sociale. Ça dure une journée puis c'est fini.
Il y avait une question, tu avais dit quand même.
Ben, je suis vraiment content qu'entre-temps, tu aies parlé de thérapie parce que ma question se rapporte à l'accueil qui est reçu dans les fraternités anonymes. Je me demande, est-ce que l'ostracisme se perpétue dans. Ces milieux-là qui sont censés être sans jugement. Hein. Parce que j'imagine qu'il y en a quelques-unes qui doivent aller là, moi aussi, parce que maintenant, tu arrêtes la source de revenus, il faut que tu arrêtes les dépenses.
Je
ne
sais pas comment ils sont vus.
Moi,
ça, je
ne
sais
pas
pour
répondre.
En thérapie, ils sont vus. Non, mais maintenant, tu vois, la façon que tu es vu,
Ben, c'est parce que c'est, quand on va dans les mots et dans A, la problématique qu'on va traiter, c'est la consommation, pas la prostitution. Fait que c'est rare que c'est abordé. C'est rare que c'est mis. Fait que. Moi, j'en fais pas de mouvement, donc.
Je pourrais faire une petite parenthèse. Les filles que je sais qui ont été qui font du mouvement, que ce soit NA ou AA, bien souvent, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas étiquetés, mais ils peuvent être sollicités. C'est ça qu'il y a.
Je proposais qu'on fasse une pause de 10 minutes, que les gens peuvent aller jouer au cigarette, puis, puis on prendra le débat, puis on va revenir sur la question du consentement. Qu'est-ce que c'est le consentement?